mesdames et messieurs, cher public, il y aurait encore bien des choses à tirer, c'est évident, de la collection de documents publics réunis dans le fascicule 2, le fascicule démosthénien, si l'on peut dire, du nouveau recueil des inscriptions attiques. Mais après deux leçons, passer à mettre en évidence à travers quelques exemples significatifs ce qui est source de grande satisfaction et ce qui peut, ici et là, susciter des interrogations, voire des objections, il paraît raisonnable de revenir progressivement à une phase plus avancée de l'histoire athénienne, celle dont nous traitions à la fin du cours de l'an dernier, et qui a fait l'objet d'ailleurs, elle aussi, d'un nouveau recueil épigraphique. Mais pour ménager la transition et surtout pour donner le dernier état de la recherche sur quelques points controversés, nous nous arrêterons encore deux ou trois fois en chemin. Notre fil conducteur sera cette fête des Panathénées, dont on a vu qu'elle avait été comme amplifiée au début de l'époque dite de Lycurgue, exactement en 335-4 selon moi. Il n'est pas inintéressant, en effet, de se demander ce qui advint de cette fête après 322, puisque la capitulation d'Athènes au terme de la guerre dite lamiaque ou hellénique entraîna précisément la perte du territoire dont les revenus servaient, durant l'époque de Lycurgue, à financer le grandiose sacrifice annuel à Athéna Polias sur l'Acropole. Comment les Panathénées purent-elles être célébrées quand les 4100 drachmes prévues pour l'achat des bovidés cessèrent de tomber dans les caisses de l'État? Je ne vois la question posée nulle part, ce qui s'explique autant par le manque de documents explicites sur ce point que par l'absence d'unanimité pendant longtemps sur l'identification de la fameuse Néa. Encore que la question, ou plutôt la solution européenne, malgré quelques réticences ici et là, soit maintenant en passe de s'imposer. Il n'y a en tout cas pas de grande surprise à attendre là-dessus des inscriptions qui seront réunies dans le fascicule 3 du corpus, dont l'édition a été confiée par l'Académie de Berlin à l'épigraphiste britannique Graham Oliver, venu présenter ici même, voici trois ans déjà, un document de l'extrême fin du IVe siècle. En effet, parmi les décrets du Conseil et du peuple, qui vont de 321 à 301, c'est l'espace temporel imparti à ce fascicule en réparation, il en est fort peu qui font mention des Panathénées, et aucun, à ma connaissance, ne se rapporte spécifiquement à cette fête. Mais à partir d'autres témoignages, on peut risquer quelques hypothèses sur cette période particulièrement troublée de l'histoire athénienne, puisqu'à trois années de régime censitaire imposé par le vainqueur, fit suite un intermède démocratique interrompu à son tour dès 317 par 10 années. De gouvernement autoritaire sous la houlette du philosophe Démétrios de Phalère, lequel fut renversé à son tour en 307 en faveur d'un régime certes démocratique mais fortement contrôlé, surtout à partir de 304 par les rois Antigone et Démétrios Poliorcète. Je ne reviendrai pas, rassurez-vous, sur les vicissitudes politiques et militaires de ces deux décennies, sinon pour rappeler un fait. C'est que les Athéniens durent attendre près de 20 ans l'occasion de rétablir leur mainmise sur l'Europie. En 319, certes, ils purent en caresser l'espoir, car le Macédonien Polypercon, en tant que tuteur des deux rois successeurs d'Alexandre, semblait fort bien disposé à leur égard. De fait, Athènes put recouvrer, grâce à lui, sa constitution démocratique. Mais cet officier fit proclamer en même temps, que si les rois restituaient à Athènes l'île de Samos, Oropos, en revanche, devait rester entre les mains des Oropiens, comme maintenant. Kataper nun, dit la fameuse ordonnance de 319, qui est chez Diodore, livre 18. Mais on notera qu'au témoignage d'un inventaire attique, le propre fils de Polypergone, Alexandros, fit sur l'Acropole, en 318, à l'occasion des Panathénées, une consécration d'armes, selon l'exemple donné en 334 par son glorieux homonyme Alexandre le Grand. Nul doute, par conséquent, que la fête, avec ses processions, sa procession, ses sacrifices, continuait à être célébrée. Mais comment les Athéniens s'en tirèrent-ils pendant cette période de vache maigre, c'est le cas de le dire, pour faire monter jusqu'à Athéna le fumet de la viande brûlé sur le beau mos Omégas, le grand autel de la déesse. On ne sache pas que le philosophe Démétrios de Phalère, pourtant très porté aux réformes, est touché à l'organisation des Panathénées. Mais il est possible qu'après 304, l'hécatombe ait pu être rétablie sous la forme voulue par la loi de 335, puisqu'un décret d'une tribu athénienne, la tribu Antiochis, atteste qu'Athènes avait pu rétablir alors son autorité sur le territoire boisé de l'Oropie, cela très probablement grâce à l'intervention en Béotie du prince Démétrios, sauveur d'Athènes. Pendant plusieurs années, l'achat des bêtes destinées à l'hécatombe dut ainsi être assuré, comme avant 322. Mais peut-être dès l'année 294, en tout cas à partir de 287, les Athéniens, brouillés avec le roi Démétrios, furent privés, sinon définitivement, du moins pendant très très longtemps, de cette terre qu'ils tenaient de lui. Cela signifie qu'allait se poser à nouveau pour eux le problème du financement de leur grande fête nationale. La question était d'autant plus lancinante que peu de temps auparavant, le trésor de la déesse avait été mis à mal par l'homme d'État Lacarès, qualifié à tort ou à raison de tyran par ses adversaires, qui avait organisé la résistance au roi Démétrios. On se souvient peut-être qu'en désespoir de cause, il avait osé toucher à la statue chryséléphantine d'Athéna elle-même, érigée dans la salle principale du Parthénon, la dévêtant au sens propre du terme, puisqu'il fit enlever les plaquettes d'or, en tout cas une partie d'entre elles, constituant le péplos de la déesse, dont les chairs visibles étaient faites du plus bel ivoire. Les grandes Panathénées, célébrées en 294 et 290, dans une Athènes placée sous la tutelle du nouveau roi de Macédoine, ne furent donc certainement pas des plus brillantes. On peut aller jusqu'à se demander si le cycle n'en aurait pas été dès alors interrompu. En tout cas, le problème se posa pour la période immédiatement consécutive à la libération d'Athènes en 287. Mais avant de revenir sur cette question débattue, il faut dire un mot du fascicule 4, en bonne voie d'achèvement de ce nouveau corpus. Celui-ci sera l'œuvre d'un spécialiste très expérimenté de l'épigraphie attique, auteur de nombreux travaux préparatoires en matière de chronologie notamment, l'Australien Michael Osborne. Sa tâche a été considérable, puisqu'il s'agit d'une tranche temporelle fort longue et particulièrement difficile, on en avait fait l'expérience, allant de l'année 301 à l'année 229. Environ 300 décrets, fragmentaires certes pour la plupart, sont actuellement connus pour cette période, qui posent de redoutables problèmes de chronologie relative et absolue, à la solution desquels Osborne a passablement contribué, comme le met en lumière un petit livre paru l'an dernier sous les auspices de notre collègue d'Athènes, Angelos Matthéou. Athens in the 3rd century BC. Or, plusieurs décrets de cette époque, et parmi les plus fameux, apportent des informations sur l'organisation des Panathénées. En 2010, j'avais fait état à diverses reprises du document historique de première importance qu'est le décret pour l'homme politique et le poète en même temps, Philippides de Képhalè, voté en l'an 282, plusieurs années après la libération d'Athènes, mais se rapportant en partie à des actions accomplies avant 287. C'est ainsi qu'un des tout premiers services rendus à ses compatriotes par ce personnage fut de convaincre le roi Lysimaque de Thrace, à la cour duquel il résidait, de contribuer à la confection des pièces de bois, vergue, keraia, et ma, histos, qui servaient en quelque sorte de présentoir pour le peplos, le vêtement sacré remis à la déesse lors des grandes Panathénées. Opos andote teteoi eista panathenaia toi peploi. La présentation du peplos, comme dit expressément l'inscription à la ligne 15. Notons au passage qu'en dépit de la connotation nautique de ces termes, il n'est pas assuré du tout que le véhicule des Panathénées ait eu dès alors la forme d'un navire, comme celui qui était exhibé lors des Dionysies, au témoignage de nombreux documents figurés. On admet couramment que ce bateau des Panathénées fut introduit dans le rituel après la victoire navale de Salamine. En réalité, aucun témoignage n'en est connu avant l'époque impériale. Le mât vertical et la vergue horizontale, histos et keraia, évoquaient peut-être tout simplement le grand métier à tisser pour le peplos. Quoi qu'il en soit de ce point, le décret pour Philippides atteste qu'en 298-7, ces deux éléments essentiels à la présentation du vêtement sacré furent mis à la disposition des Athéniens, donc très certainement pour les grandes Panathénées de l'été 298. Notons qu'il n'est nullement question du rétablissement de cette fête, comme l'écrivait naguère le regretté Jean Pouilloux dans son excellent choix d'inscription grecque, pas trace non plus d'une prétendue négligence des devoirs religieux. Il s'agissait seulement de remplacer deux pièces endommagées 4 ans plus tôt, quand, écrit Plutarque dans sa vie de Démétrios, chapitre 12, le peplos où l'on avait tissé les images des rois Antigone et Démétrios, aux côtés de celles de Zeus et d'Athéna, fut déchiré par une bourrasque alors qu'on le promenait à travers le céramique. Accident où ce même Philippides avait vu la condamnation d'un acte impie, œuvre de son adversaire politique, Stratoclès. Mais une fois rentré à Athènes, après la libération de la ville, Philippides voulut donner d'autres preuves de son dévouement et de sa piété. Élu dès 285-4 aux fonctions d'agonothète, c'est-à-dire donc de magistrat chargé de l'organisation générale des concours, il sut répondre à l'attente de sa patrie en célébrant à ses frais, au nom du peuple, les sacrifices que la tradition imposait de faire aux dieux ancestraux. Ligne 41, Ectonidion, tous tes patrius tusias, etusen, tois theois, hyper tout démon. En instituant aussi un concours additionnel, Epitheton agona kateskeiasen, pour Déméter et Corée. Je ne reviens pas ici sur ce concours, sans doute célébré à Athènes même, dans l'Éleusinion et non à Éleusis. Au beau milieu de ce passage, une ligne de l'inscription a donné du fil à retordre aux éditeurs depuis un siècle, ou même davantage. On n'a pas su trouver encore quel était le mot manquant au début de la ligne 42, avant le verbe « edoken ».« A not easy restoration », écrivait en 1978 Leslie Shear, directeur des fouilles américaines de l'Agora. Tout le monde, en revanche, paraît convaincu qu'à la ligne suivante, il faut rétablir le mot « agonas », cet accusatif ayant, nous dit-on, valeur temporelle ou même finale, avec une préposition à sous-entendre, sinon à suppléer. Philippides, en tant qu'agonothète, aurait donc fait quelque chose lors de tous les concours. Mais dans une séance de séminaire de l'année 2010, j'ai osé proposer une toute autre solution, restée encore inédite. Le complément d'objet de Edoken n'est pas à chercher avant, mais après le verbe. C'est précisément l'accusatif pantas tous, avec un mot de six lettres qui ne saurait être agonas, car à l'évidence, Philippides ne peut pas avoir donné tous les concours, restitution inepte. Ce qu'il a donné à tous les Athéniens, ce sont, je pense, tous les pains, pantas tous artus, que l'on consommait à l'occasion des sacrifices, d'où aussi la forte liaison grammaticale tekai entre cette phrase et la précédente. Dans la lacune de neuf lettres de la ligne 42, on ne cherchera donc plus, comme on l'a fait en vain jusqu'ici, un nom féminin à l'accusatif, ten politeian, ten estiasin, ten diobelian, que sais-je encore, parmi tous ces cadeaux impossibles. Ce qu'il faut retrouver ici, c'est l'adverbe temporel, tenikauta, ou mieux tenika, forme attique, plus courte, et ensuite deux possibilités s'offrent au choix, soit kai tenika dorean edoken, et alors, c'est-à-dire à l'occasion de chacun des sacrifices, il donna gracieusement, soit, et peut-être mieux car on attend éventuellement un composé du verbe didomi plutôt qu'un le simple, kai tenika, tenika, pros anedoken, et il distribua alors, en outre, en plus de ce qu'il faisait en organisant les concours, les sacrifices, à tous les Athéniens, Athénaios passin. C'est-à-dire qu'il offrait toutes les galettes des sacrifices. Sa générosité fut donc considérable, même si Philippides ne prétendait nullement prendre en charge, ou à sa charge, la fourniture des viandes elles-mêmes. L'achat des vaches pour les petites panathénées n'était d'ailleurs pas du ressort de l'agonothète. Il se pourrait bien, au surplus, que l'on ait dû renoncer dès alors à cette lourde dépense, puisqu'en 287, au plus tard, s'en était fait définitivement des substantiels revenus de l'Anéa, autrement dit de l'Europie. On sait en tout cas que la célébration des grandes panathénées se heurta aussitôt après à de sérieuses difficultés. Ce problème restait longtemps insoupçonné. C'est un autre document majeur de la première moitié du IIIe siècle qui l'a naguère mise en lumière. Je veux évidemment parler du beau décret pour Callias de Sphettos, honoré en l'an 270-269, si souvent allégué à propos de l'histoire et des institutions athéniennes à la haute époque hellénistique. Avant même de le reprendre, certainement en très bonne place, dans le fascicule 4 du corpus à venir, Michael Osborne en a procuré une nouvelle édition assortie d'un bref commentaire dans son essai de 2012. Or, la lecture de cette réédition n'est pas sans réserver une surprise et elle suscite au moins deux observations. D'une part, on constate qu'aux lignes 78-79, qui sont les seules à n'avoir pu encore être complètement restituées et qui se rapportent à l'attitude exemplaire du personnage pendant la période de l'oligarchie, le texte n'est pas exactement celui que fournissaient les éditions précédentes depuis la publication du document en 1978. Sans que pour autant l'on puisse parler d'un véritable progrès, puisque Osborne n'essaie pas de tirer parti de sa nouvelle lecture, celle d'un tau et d'un epsilon juste après oudépoté hypomeinas, n'ayant en aucun cas admis, supporté. Ces deux lettres, en effet, l'épigraphiste australien les a laissées, vous le voyez, en majuscules, avant une courte lacune non comblée. La tournure T, Kai, semble ici exclue par le manque de place avant un nouveau développement pour indiquer l'attitude intransigeante de Callias à l'égard de l'oligarchie. Dans ces deux lettres, il faut donc voir bien plutôt la première syllabe d'un verbe à l'infinitif qui est attendu après hypomeinas. J'étais déjà allé dans ce sens en proposant en 2002 de restituer ici le verbe archestai, n'ayant absolument jamais accepté d'être commandé, autrement dit, de se soumettre au régime oligarchique mis en place par le roi Démétrios après 294. Mais s'il se confirmait que le verbe débutait par les lettres T, tau, epsilon, la restitution archestai ne pourrait évidemment plus être défendue. Je suggérerais alors d'écrire tellegistai, qui correspondrait bien aux traces des lettres et à l'espace disponible. Callias n'accepta jamais, aussi longtemps que fut abolie la démocratie authentique, d'entrer dans le cercle des dirigeants de la cité, malgré ses moyens financiers, ses relations familiales. C'est en effet un sens possible, quoique assez rare, de tellein au passif, être classé, être initié, et par analogie, être compté au nombre des membres d'un groupe influent, celui des stratèges, par exemple, on a un exemple connu chez Démosthène, telesthenai strategos, ekastos poudazon, chacun cherchant à être mis parmi les stratèges, à rapprocher aussi de l'expression bien connue, oi en telei, désignant les hommes au pouvoir, les dirigeants, chez Hérodote et plus tard. Il semble donc possible de rendre compte de la nouvelle lecture de Osborne, ce qui permettrait de faire progresser un peu l'établissement du texte. L'autre point litigieux se rapporte directement à l'histoire des Panathénées en ces années consécutives à la libération de 287. En 2011, j'étais revenu sur le passage où il est dit qu'à l'époque où le roi Ptolémée II d'Égypte célébrait pour la première fois la fête des Ptolémaïas à la mémoire de son père. Ptolémée Sautère, le fondateur de la dynastie Lagide, décédé en 283-2, Callias, envoyé en délégation à Alexandrie pour y représenter sa cité lors des cérémonies, avait été amené à solliciter, au nom d'Athènes, la générosité du souverain régnant, car le peuple athénien se trouvait à ce moment-là, toté, c'est très explicite, sur le point également de célébrer les Panathénées après un certain laps de temps pendant lequel la fête avait dû être interrompue depuis la libération de la ville. Il est vrai que l'adverbe numéral gravé après toté à la fin de la ligne 64, n'était que très particulièrement lisible. Mais il avait paru clair que ce ne pouvait être que Proton, pour la première fois depuis cet événement majeur. Cela n'allait certes pas sans problème, dans la mesure où il fallait admettre qu'à Athènes, on avait dû attendre au moins jusqu'en 282, ou même seulement 278, pour reprendre le cycle interrompu des grandes Panathénées. Car la première célébration des Ptolémaïas, elle, ne pouvait guère avoir eu lieu avant 279-8, compte tenu du temps nécessaire à la mise sur pied de cette nouvelle grande fête panhellénique. Aussi, dès 1980, Osborne lui-même, dans un compte-rendu assez rapide, avait-il suggéré d'éliminer Proton au profit de Triton pour la troisième fois, et il fut suivi avec conviction par un jeune historien allemand, Boris Dreyer. Cela avait certes l'avantage de rendre inutile toute idée d'interruption des Panathénées, en effet, c'est seulement pour la troisième édition Triton de cette fête après la libération que Callias, au printemps 278, aurait demandé le soutien de Ptolémée. À la réflexion, pourtant, cette substitution s'avérait bien improbable. Pourquoi aurait-on pris la peine de dire que l'on était à la troisième célébration si justement il n'y avait pas eu la moindre interruption ? De plus, en 2011, comme on l'avait signalé l'an dernier, une chercheuse américaine, Julia Sheehan, fille du premier éditeur, avait noté qu'en réalité, il subsistait sur la pierre les deux jambages d'un pi et qu'il fallait donc en revenir à la restitution proton. Mais Osborne, aujourd'hui, ne veut point entériner cette lecture, car il n'accepte pas la conclusion chronologique que Julia Sheehan entend en tirer. Pour elle, en effet, la seule manière raisonnable d'expliquer que la fête n'ait pu avoir lieu dans l'été 286, c'est que le soulèvement d'Athènes se déroula précisément à ce moment-là, ainsi que l'avait proposé et soutenu le premier éditeur du décret. Mais au lendemain de cette très méritoire publication, Habich, Osborne et Osborne lui-même avaient fait valoir, indépendamment, de très bonnes raisons en faveur d'une date plus haute, montrant que la libération fut réalisée dès le printemps 287. On voit ainsi qu'il y a parmi les spécialistes anglo-saxons eux-mêmes un désaccord assez profond sur ce point crucial de l'histoire politique et religieuse. Qu'on me permette alors de redire ici, en toute brièveté, quelle est ma position actuelle. D'un côté, je ne saurais croire à la restitution tritone, qui me paraît épigraphiquement, désespérée et historiquement dépourvue de sens. C'est seulement dans l'hypothèse où la fête devait être célébrée pour la première fois depuis la libération de la ville que Callias s'était fondé à demander au roi Ptolémée la mise à disposition de cordages pour le peplos d'Athéna. Le décret utilise en effet le mot opla, qui a évidemment plus d'une signification, mais dont un autre décret nettement plus tardif, puisqu'il date de l'année 142 et pour un agonothète, montre que, sans équivoque là, qu'il doit s'agir ici non pas de pièces de bois, mais de cordages faits d'étoupe, opla stupina, comme les agrès de navire. Si, en 278, la fête en avait été à sa troisième célébration, quel besoin y aurait-il eu à le dire, puisque tout aurait été, encore une fois, parfaitement régulier. Il semble donc absolument nécessaire d'admettre une interruption du cycle des Panathénées dans les années 280. Mais d'un autre côté, je ne pense pas que la situation économique d'Athènes au lendemain de sa libération ait été la cause principale de la non-célébration en 286 et en 282 encore, car le dénuement n'a jamais empêché une communauté d'honorer ses dieux. Comment croire au surplus que les Athéniens aient pu faire montre d'ingratitude en pareilles circonstances à l'égard de leur déesse tutélaire? C'est pourquoi je suis d'avis que l'obstacle était en réalité de nature politico-religieuse. Pour pouvoir fêter Athéna Polias, il fallait que toute la cité fût rassemblée autour de la divinité fondatrice, Archégétis, comme l'appelle précisément de manière rare le décret pour Callias. Or, bien des années furent nécessaires pour rétablir l'unité politique de l'Attique. En 282, certes, on put croire ce moment arrivé, mais ce n'est que vers 280 que la dernière place forte occupée par les Macédoniens, à savoir Munichi et le port avec le Pirée, fut cédée à Athènes. Alors seulement, tous les Athéniens, Pantes Athénaioi, furent en mesure de célébrer les Pan Athénaïa. On comprend donc qu'il ait fallu renoncer non seulement à la célébration de 286, mais encore à celle de 282. Je ne me fais néanmoins pas beaucoup d'illusions sur le sort immédiat de cette exégèse, car très rares encore sont les historiens qui accepte l'idée même qu'Athènes ait pu récupérer le Pirée avant de subir à nouveau le joug macédonien entre 262 et 229. Il est temps de retrouver un terrain plus solide, encore qu'il ait lui aussi ses chausse-trappes. En ouvrant le cinquième fascicule, gros volume, du Corpus Attique, paru l'an dernier, en même temps que le fascicule 2 précédemment examiné. Ce très ample volume porte en effet sur la période 229-167, qui avait constitué la matière de notre cours et du séminaire de 2012. Il est l'œuvre conjointe du très fin connaisseur de l'épigraphie attique qu'est l'épigraphiste professeur, en même temps, Stephen Tracy, et d'une épigraphiste grecque expérimentée, Madame Voulin Vardani, à qui est due notamment la révision des pierres conservées à Athènes même. Mais l'épigraphiste américain n'en est pas moins le maître d'œuvre du recueil, puisqu'à lui seul, il a eu le privilège de publier ou de recomposer souvent plus de 60 des quelques 300 inscriptions réunies dans ce volume. Ce qui montre d'emblée que le nouveau fascicule contient un nombre assez considérable de décrets qui étaient enfouis sous terre ou seulement très partiellement exhumés à l'époque du corpus antérieur, celui de Johannes Kirchner en 1916. C'est que l'Agora d'Athènes, fouillée par l'école américaine à partir des années 1930, était le lieu d'exposition de la plupart des documents publics de l'époque hellénistique, alors qu'au IVe siècle encore, on l'avait noté, l'acropole était l'épiphanestatos topos par excellence. Dans cette abondante récolte, se trouve même, chose plutôt rare et pas forcément souhaitable, quatre documents restés entièrement inédits, en dépit de l'ancienneté relative de leur trouvaille. Les deux éditeurs, dans leur préface latine, signalent le fait, mais se gardent d'indiquer quelles sont ces inscriptions offerte pour la première fois à la curiosité du lecteur. Il faut donc lire, ou du moins parcourir attentivement le volume pour les découvrir. En réalité, depuis une quinzaine d'années déjà, on savait que deux importants décrets pour les éphèbes athéniens au début du IIe siècle n'avaient pas encore vu le jour, tout en circulant quelque peu sous le manteau des cosmètes. Ce sont évidemment des morceaux de choix. Mais avant de se précipiter sur ce butin, à la manière des corbeaux qui, au dire de Pausanias, plongeaient sur les pièces de viande fraîche qu'on exposait à des fins divinatoires dans un bois sacré de la Béotie, passons tout de même en revue quelques textes qui pourraient être déjà connus, n'en gardent pas moins un grand intérêt. Je ne m'arrêterai pas longtemps sur la réédition de deux décrets liés à la conjoncture de 229, car au printemps dernier déjà, j'avais pu faire état, grâce à l'amabilité de Stephen Tracy, du texte qui allait être adopté. On se souvient peut-être que l'un d'eux, aujourd'hui repris sous le numéro 1141, concernait un riche étranger honoré de la proxénie pour avoir répondu généreusement à des souscriptions publiques en vue de la défense de la cité. Apollas Tarinontis filius proxenia honoratur, pour reprendre le titre donné par les éditeurs, qui auraient pu, sans excessive audace, ajouter Colophonius après filius, car ils ont vu, de manière indépendante, que l'onomastique rendait pratiquement assurée la restitution Colophonion à la ligne 23, plutôt que d'autres ethniques en Onios, comme Sicuonios, longtemps accepté, Sidonios, Sidonion, de Sidon, Gurtonion, de Gurton en Thessalie. En effet, le nom, l'anthroponyme d'un des fils d'Apollas, Agamédès, est un anthroponyme d'une rareté extrême, attesté seulement et plusieurs fois à Colophon, donc dans cette cité d'Ionie, où le culte d'Apollon Clarios, divinité oraculaire, explique assez, par ailleurs, le nom d'Apollas lui-même. Il y avait là comme un triomphe de l'onomastique en tant que source historique, et cette victoire aurait dû, je pense, être proclamé d'entrée de jeu, sans l'ombre d'une hésitation. À la même série appartient un décret dont les considérants sont plus mutilés, mais se rapportent manifestement, comme cela a été vu depuis longtemps, aux travaux de défense de la ville, donc en 220, ou après 229, c'est le numéro 1140 aujourd'hui. Le personnage, Aristocréon, fils de Nausicratès, porte lui aussi un nom caractéristique d'une région qui est cette fois l'île de Chypre, avec des noms comme justement Nicocréon, porté par un roitelet chypriote. Étant donné que son ethnique, qui était court, environ 6-7 lettres, commençait par un sigma, comme on voit la poleis, tes, poleos, tes, puis sigma, en ligne 10, ce personnage pourrait avoir été de la ville de Soloï, sur la côte nord de l'île, la grande baie, dont l'ethnique est Soloïs, ou alors de la ville homonyme en Cilicie, ethnique Solios, sur la côte donc en face. Mais on a longtemps privilégié une solution différente. Elle consiste à faire de lui un habitant d'une ville cilicienne aussi, dite Séleucie du Calicadnos, en raison du fait qu'un autre décret athénien honore un Aristocréon qui, lui, est domicilié dans une Antioche, c'est un peu compliqué, tenue pour être la voisine de cette Séleucie cilicienne. C'est donc le numéro 1291 aujourd'hui. Or, l'Aristocréon en question, celui-ci, est loué pour avoir fait un séjour d'études à Athènes, épiscolène, ce qui n'est pas banal, tout en étant un personnage important dans sa propre cité, puisqu'il y accueillait avec générosité les envoyés d'Athènes, aussi bien que les ambassadeurs sacrés, spondophoroi, que d'abord les ambassadeurs civils. Notons à ce propos qu'il aurait fallu introduire à la ligne 19 la restitution presbéone de Louis Robert, qui a montré qu'à Athènes, les spondophoroi ne faisaient qu'un avec les théoroi, ce qui condamne ici la restitution théorone du grand Adolphe Wilhelm. On a donc pensé que ces deux homonymes pouvaient ne faire qu'un et devaient être identifiés au personnage de ce nom que mentionne Diogène Laërce, livre 7, chapitre 184, en précisant qu'il était le neveu et même en même temps le disciple de Chrysippe, scolarque de l'école stoïcienne, décédé en l'an 206-5. Or, ce Chrysippe était précisément de Cilicie, plus précisément de Sol ou de Tars. Donc Aristocréon, né vers 250, aurait pu suivre l'enseignement de son oncle à Athènes pendant une vingtaine d'années avant de regagner sa patrie cilicienne ou chypriote. Telle est en gros l'opinion commune encore chez Éric Perrin, Éducation, Culture et Société à Athènes en 2006. Mais cette reconstitution un peu acrobatique, il faut bien le dire, paraît aujourd'hui plus malaisé à admettre, étant donné que l'archonte Chariclès, mentionné dans le second décret, celui que vous avez sous les yeux, s'est avéré daté au plus tôt de l'an 200, peut-être même seulement de 184-3, selon les nouveaux éditeurs. On comprend donc que ceci ait mis en doute l'identification traditionnelle des deux Aristocréons, même si leur chronologie est ici probablement un peu trop basse. Les quatre grands inédits que comporte ce fascicule 5 du corpus honorent tous, quant à eux, des Athéniens de souche, et de manière collective, non pas individuelle. Il y a d'abord deux décrets pour des collèges de prytanes, c'est-à-dire pour les 50 membres d'une même tribu, fulè, constituant, pendant la durée d'une prétanie, soit à peu près un mois, la présidence du Conseil de la Cité. Un grand nombre de ces décrets caractéristiques de l'époque hellénistique a été trouvé sur l'agora, à proximité du bâtiment circulaire du Tolos, où siégeaient ces magistrats. Il s'agit certes de documents assez répétitifs, puisque ce sont toujours à peu près les mêmes services qui font l'objet de l'éloge. Mais chacun d'eux apporte néanmoins son lot d'informations, ne serait-ce que du point de vue de la prosopographie attique, du « who is who », si vous voulez, puisque l'on apprend progressivement à connaître toute la classe politique de cette longue période. En l'occurrence, on a affaire à deux décrets séparés par une dizaine d'années, mutilés en son début, le plus ancien, numéro 1144, n'est pas daté à l'année près, mais, comme le font voir les éditeurs, il est certainement antérieur et de peu à l'année 224-3, quand eut lieu, on s'en souvient, l'événement très important que fut la création d'une nouvelle tribu, la Ptolémaïs, en l'honneur du roi Ptolémée III. Je ne reviens pas ici sur les raisons politiques de cette réforme institutionnelle qui entraîna un remodelage partiel de la répartition des dèmes entre les tribus. Or, dans le catalogue attenant au nouveau décret pour ces 50 prytanes de la tribu Oïnéis, on constate que figure encore un représentant de la communauté des Boutadaï à la ligne 61. Petit dème qui fut précisément l'un de ceux à avoir été attribué après la réforme à la tribu Ptolémaïs. Cette liste nous enseigne aussi que si le nombre des députés envoyés par chaque dème à la boulet des 600 était très stable, il pouvait néanmoins connaître de faibles variations de l'ordre d'une unité en plus ou en moins. On possède en effet pour cette même tribu Oïnéis un catalogue datant de l'année 302, quand Athènes avait déjà adopté le système des 12 tribus. Une comparaison précise des effectifs est donc possible et il en ressort que, par exemple, le gros dème d'Acarne, le plus grand des dèmes de l'Attique, patrie des Acarniens d'Aristophane, avait vu sa députation passer d'abord de 22, qui est encore le chiffre ici sur cette carte, en 302, à 25, puis à 26 dans notre document, constituant ainsi plus de la moitié des 50 boulottes de la tribu. Quel contraste avec la situation de quatre autres dèmes n'ayant qu'un seul représentant en tout et pour tout. Relevons un apport supplémentaire du nouveau document. C'est dans le second décret qui émane, lui, de la boulet et qui honore un certain nombre de fonctionnaires ayant bien mérité de la cité pendant cette prytanie, justement, de l'Oïnéis, l'apparition d'un olète qui était un musicien professionnel demeurant en fonction plusieurs années de suite. Et que faisait donc ce personnage aux côtés des trésoriers, secrétaires et autres appariteurs? Très certainement, il accompagnait du jeu de son instrument les cérémonies religieuses accomplies par la boulet. L'autre inédit, de même catégorie, a été trouvé dans les fouilles de l'Agora en 1991. Il s'agit d'une stèle bien conservée, faisant mention de l'archontat de Dioclès, éponyme connu, désormais datable de l'année 214-3, donc le numéro 1162. On est donc là à l'époque des 13 tribus, entre 224 et 200. Et le lapicide de la nouvelle stèle est précisément de l'avis autorisé de Stephen Tracy, l'artisan à qui l'on doit la gravure de la grande liste des archontes dont nous avions parlé l'an dernier, qui vont de 229 à 211, un document tout à fait essentiel. Si les deux décrets, celui du peuple pour les prytanes de la tribu Aiantis et celui de la boulet pour les fonctionnaires méritants, dont d'ailleurs le même Ouellette que 10 ans plus tôt, ne nous apprennent peut-être pas grand-chose de neuf. Il est intéressant d'avoir une liste complète des prytanes de cette tribu. On voit que seul un nombre assez restreint de gros dèmes envoyaient alors des députés au conseil. Ainsi, Marathon, Phalère, avec 13 députés chacun, Oinoé et Trichorhynthos, avec 6 députés, enfin Ramnonte, avec 12. Aucun petit dème ne figure dans cette liste. De telles absences ne sont pas exceptionnelles et l'on pourrait constater le même phénomène dans les catalogues civiques ou éphébiques d'Érythrée, cette cité dont la constitution, on l'a vu, offre tant d'analogies avec celle d'Athènes. Pour les dernières décennies du IIIe siècle, deux documents attiques ont une portée historique considérable. Il s'agit des décrets pour Eurycleides, meneur de la politique athénienne avec son frère Mycione de Kyphysia, et pour Képhisodoros, en qui l'on a d'emblée reconnu l'Athénien qui, le premier, mena une ambassade auprès du Sénat romain en 200 avant Jésus-Christ. Ces deux hommes d'État ont certainement en commun d'avoir été récompensés par les plus grands honneurs, même si la mention de ces mégistai timai n'est pas conservée dans l'inscription très fragmentaire qui concerne le premier d'entre eux, numéro 1160 que nous allons voir dans un instant. Une chose cependant paraît de prime abord distinguer les deux cas. En effet, si le décret pour Képhisodoros a été découvert sur l'agora, où étaient normalement exposés les documents de ce type, c'est au Pirée, près du bassin de Kantaros, que fut trouvé vers la fin du XIXe siècle le décret pour Eurycleides. On a cru pouvoir expliquer ce lieu d'exposition inhabituel pour un tel décret par le fait qu'au témoignage de l'inscription elle-même, Eurycleides avait œuvré à l'aménagement des ports et de la fortification dans l'agglomération du Pirée. C'est aux lignes 14-15. Chez les récents auditeurs, assurément, cette explication n'est pas expressément reprise, mais elle s'y trouve comme en filigrane, puisque tout le monde, à ma connaissance, l'admet implicitement. Or, il me paraît nécessaire aujourd'hui d'en trouver une autre, puisqu'en 1982 déjà, Christian Habicht a prouvé que le décret n'entendait pas récompenser seulement une série d'actions ponctuelles en rapport plus ou moins immédiat avec la libération d'Athènes en 229, mais qu'il s'agissait d'honorer ce personnage pour l'ensemble de la carrière politique qu'il avait parcourue jusque-là, qui devait s'étendre en gros de 250 à 210 environ. Cette démonstration, aussitôt acceptée, s'appuie notamment sur le caractère très général d'une phrase comme celle qui nous avait précédemment arrêtée, où il est dit d'Eurycleides qu'il sut faire entrer dans le cercle des amis d'Athènes non seulement un certain nombre de cités grecques, Poleis Hellenidas, mais aussi de rois, Basileis, ligne 16, comme Habicht l'a suggéré avec une probabilité qui confine à la certitude. Dans le texte des nouveaux éditeurs, cette ligne comporte cependant, on le voit, une lacune d'environ 3 lettres. Comment la combler sans remettre en question le supplément palmaire de l'épigraphiste allemand? Il faut, je crois, substituer au composé pros et gageto, vous voyez que gageto est parfaitement conservé, le verbe ep, le composé surcomposé pros epe gageto, pros epe gageto, le verbe ep agestai est en technique pour exprimer le fait de conduire quelqu'un à adopter une opinion ou à adhérer à un parti et ici à une alliance. Bref, Eurycleides n'a pas été loué seulement pour son action en faveur du Pirée. Ce bienfaiteur de tout l'État, on ne saurait avoir manqué de l'honorer par une statue
en ville même d'Athènes, sur l'agora, comme Phaédros et Callias de Sphétos une génération avant lui. Dès lors, il paraît difficile d'échapper à la conclusion que si le fragment conservé vient du Pirée, c'est qu'en réalité, il y avait deux stèles à l'origine. L'une exposée dans le port, entoi emporioi, l'autre sur l'agora, ente agorai. Mais s'il y avait ainsi un décret en deux exemplaires, c'est que chacune des stèles avait été placée auprès de la statue du personnage honoré. Autrement dit, Eurycleides avait reçu l'honneur d'une double statue. Chose dont il n'y avait jusqu'ici qu'un seul exemple à Athènes pour cette époque encore haute, c'est celui justement de Képhisodoros, à qui se rapporte, on s'en souvient, un beau décret presque intact, repris maintenant sous le numéro 1290. Or, dans ce cas, la raison d'une telle récompense paraissait limpide. Képhisodoros n'avait-il pas rendu aux Athéniens un service exceptionnel, dépassant en importance tout ce que les Évergètes antérieurs avaient pu faire pour la cité, puisque, comme le prétend Pausanias, dans ses Attica, livre 1, chapitre 36, il aurait sauvé Athènes du désastre en l'an 200 en allant solliciter le secours des Romains contre le roi Philippe. Mais l'induction n'était-elle pas trop rapide? Ne devait-on pas s'étonner que Képhisodoros eût jugé possible de demander lui-même un tel honneur s'il n'existait pas au moins un précédent dont il pouvait s'autoriser? On notera au passage qu'à la ligne 32, le verbe est certainement l'actif aitei, normal, mis en évidence par un espace vide que le lapicide a laissé avant comme après le verbe, et non pas la forme médio-passive aiteitai, que tout le monde a accepté, sans broncher, y compris, on le voit, les derniers, les récents éditeurs, sous le mauvais prétexte qu'elle aidait à remplir la lacune de la ligne suivante. En réalité, tout indique aujourd'hui que l'octroi de deux statues au lieu d'une seule est à mettre en étroite relation avec la promotion du Pirée après 229, époque à laquelle on voit apparaître dans les inscriptions l'expression « aipoleis ton athénaïon », qui désigne à coup sûr, comme l'avait mis naguère en lumière Philippe Gautier, les deux agglomérations de l'Astu et de l'Emporion, la ville et son port. Voilà qui explique, je pense, la présence au Pirée de la stèle pour Eurycleides. Si donc Képhisodoros a demandé et obtenu à son tour deux statues, dont une au Pirée, ce n'est nullement la preuve que ses services aient été hors du commun. Pour prétendre au mégistai timai, il lui a suffi d'être un homme politique très dévoué pendant les 30 ans d'activité requise par la loi sur les honneurs, pepoliteu menos men prosta triaconta était. De fait, on l'avait vu, il n'y a pas la moindre allusion dans tout le décret à cette fameuse ambassade devant le Sénat de Rome. Non pas que cet événement soit dépourvu de réalité historique, car le témoignage de Polybe atteste que l'Athénien Képhisodoros fit au moins le voyage de Rome à la fin de l'année 198, mais pour la bonne et simple raison que le décret retrouvé par les archéologues américains doit avoir été voté avant l'envoi de cette députation. Il est désormais établi en effet que l'inscription ne date pas de l'année 196-5, comme le premier éditeur, en 1936, l'avait trop rapidement affirmé au terme d'un raisonnement compliqué et même contestable, et comme la plupart des historiens le croient encore à sa suite, en essayant de se persuader que le silence absolu observé sur le compte des Romains était le fait d'une prudence diplomatique de bon aloi. Étrange hypothèse à la vérité, puisque la conjoncture politique aurait dû tout au contraire inciter les Athéniens à ne pas méconnaître le rôle essentiel que Rome avaient joué dans le salut apporté à leur cité. Mais ce qui est étonnant, c'est que depuis 20 ans, quelques-uns parmi les meilleurs spécialistes, dont les deux nouveaux éditeurs, ont pris le parti d'abaisser encore davantage la date du décret, sur la base d'une restitution assez aléatoire dans un document qui imposerait de placer ce document en 184.3 seulement. Date de l'archonte Cariclèse. Sans tenir suffisamment compte des problèmes historiques qu'entraîne une datation aussi basse. Il existe pourtant depuis peu, suite à des progrès réalisés dans la chronologie attique de la dernière décennie du 3e et début du 2e siècle, une autre possibilité, à mes yeux, beaucoup plus satisfaisante. Elle consiste à loger l'archonte Cariclès dans une case laissée précisément vide du tableau des archontes donné par les nouveaux éditeurs, en lui attribuant la place qui convient au vu de tous les paramètres, tribu déjà au nombre de 12, non plus de 13, secrétaire appartenant à la tribu Ayantis qui occupe le 10e rang, etc. C'est-à-dire, on le voit, l'année 200-199, l'une des plus critiques de l'histoire athénienne au lendemain de la seconde attaque du roi Philippe contre la ville et le territoire, quand précisément il fut décidé de faire appel aux Romains. Et si le soin de mener cette ambassade fut confié à Képhistodoros, c'est peut-on penser en raison de l'expérience acquise par le personnage durant les 30 années précédentes. Telle est donc la solution que j'ai pris le risque de proposer à mes collègues dans un volume qui est à l'impression outre-Atlantique. Concluons cette leçon par quelques mots sur les deux autres documents inédits, eux aussi découverts sur l'Agora. Que nous livre généreusement le nouveau recueil. Il s'agit de décrets pour les éphèbes, l'un datant très probablement des premières années du IIe siècle, numéro 1256, c'est celui qui sera examiné tout à l'heure en séance de séminaire. L'autre, de l'année 176-5, c'est le numéro 1313. Ce dernier a été trouvé en deux temps, comme il arrive bien souvent. Un petit fragment avait été dégagé dès 1936 et aussitôt publié par les Américains Pritchett et Merritt dans une étude sur le calendrier attique. Ce qu'il contenait, effectivement, la mention d'un archonte éponyme, Hippakos, dont on ne connaissait pas encore la date précise. Il figurait en particulier dans un décret banal pour un commerçant étranger que nous avons eu l'occasion d'alléguer l'an dernier, en relation justement avec cette expression, l'expression « entais polechin » pour désigner la ville et le Pirée. Ce fragment minuscule fut réédité en 1996 dans le volume des Athenian Agora Excavation, c'est ici le numéro 280. Mais entre-temps, en 1985, comme il a bien voulu me le préciser dans une lettre du 14 novembre dernier, le professeur Habicht s'était aperçu que l'on pouvait raccorder ce petit fragment, très exactement, à une grande stèle inédite mise au jour en 1981, dont il avait reçu, à titre confidentiel, un estampage à Princeton. C'est donc en Amérique, sur le papier, non pas à Athènes, au musée de l'Agora, que put être vérifiée l'appartenance des deux fragments, vous voyez le tout petit en haut à gauche, et le grand inédit. Cependant, étant donné que les droits de publication restait à l'inventeur, l'archéologue Leslie Shear, Habicht ne pouvait songer à faire connaître ce raccord avant la publication. Mais comme celle-ci tardait à venir, un compromis fut finalement trouvé. C'est ce qui rend compte de la formule un peu surprenante que l'on peut lire dans le lemme en haut du nouveau corpus. « Ineditum coniunxit Christianum
Abishth per epistulam. Abishth a fait par correspondance le raccord de l'inédit, sans même la mention de l'inventeur. C'est un peu paradoxal. On voit que l'histoire des inscriptions est largement dépendante des relations plus ou moins confiantes entre les épigraphistes. L'un des intérêts majeurs du raccord, c'est qu'il assure la succession de trois éponymes, c'est tout petit, on ne va pas s'attarder. En effet, les éphèbes sous l'archontat de Caïripos sont honorés sous celui d'Hippacos, et leur cosmète l'est au début de l'année suivante, quand Sonikos était archonte. Voilà comment progresse, de manière indiscutable, l'établissement de la chronologie attique dont peut dépendre celle de l'ensemble du monde grec. Mais il est clair qu'en dépit de sa phraséologie un peu répétitive, ce dossier de 150 lignes contient bien d'autres enseignements encore. Je n'en signale qu'un ici, le chiffre exact des éphèbes pour cette année-là, car c'est une donnée précieuse dont on n'avait guère l'équivalent pour la fin du troisième et le début du deuxième, comme le montre ce tableau. Le catalogue complet comprend 48 noms répartis assez également entre les 12 tribus. C'est un chiffre bien supérieur à celui de l'autre nouveau décret, à propos duquel on pourra faire tout à l'heure l'inventaire des différences, car il n'y a là guère plus d'une vingtaine de noms. Certes, cela reste un effectif bien restreint par rapport aux chiffres que permet d'établir la documentation des années 335-322, lorsque l'Éphébie a connu son âge d'or. Bien sûr, il ne s'agit plus que d'une étroite élite sociale, issue des familles possédantes, dont les membres sont appelés à occuper les postes les plus élevés de la magistrature. Mais ce ne sont pas pour autant des fils à papa, tout juste bons à parader lors des cérémonies. Ils apprennent à obéir, paitarkein, en pratiquant des exercices militaires, combat en armes, tir à l'arc, tir à la catapulte, un engin qu'ils fabriquent eux-mêmes sous la direction de maîtres spécialisés. Surtout, ils parcourent tout le territoire de l'Attique, exactement comme au IVe siècle, dans les lois de Platon et dans l'Athénaïon polythéen aristotélicienne, pour acquérir l'expérience empiria de la vie aux frontières, taoria, dans les forteresses d'Afruria. Il leur arrive même de faire une incursion, certes pacifique, dans l'Europie voisine, on y reviendra à loisir, sans parler de l'apprentissage qu'ils font également de la navigation, en allant bravement à Salamine sur un navire école, pourrait-on dire, que la cité met à leur disposition. Et en lisant le décret de l'année 196-5, on verra qu'ils peuvent être appelés à des opérations de guerre quand un ennemi menace le pays. À l'époque de ces documents, l'Éphébie apparaît encore comme une école de formation pour les futurs cadres de la cité. Si une grande place est laissée aux rites et aux cérémonies, c'est que la religion est un aspect essentiel du civisme antique. Les activités proprement culturelles, les choses de l'esprit, les mathémata philosophiques ne jouent encore dans les gymnasia et même au lycée qu'un rôle bien marginal, ce qui constitue une notable différence avec le tableau que donneront les décrets de la fin du IIe siècle. Et le caractère civique est bien marqué par le fait que parmi ces quelques dizaines d'éphèbes, il n'y a pas le moindre étranger, xénos, admis à participer au rituel éphébique. À la veille de la conquête de la péninsule balkanique par les Romains, Athènes se présente donc encore comme une cité de type traditionnel.